Bonsoir. Pour ce 23e rendez-vous annoncé, la mobilisation des Gilets jaunes est restée plutôt faible aujourd'hui, sauf à Paris, regain de mobilisation et il y a bien eu des affrontements entre République et Bastille. Un cortège bien fourni également à Toulouse, nous le verrons. Un grand concert aux Invalides ce soir pour appeler aux dons pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. De nombreux artistes ont répondu présents. Marie-Claude Pietragala nous dira pourquoi. En Égypte, un référendum sans surprise pour maintenir au pouvoir le président Sissi. Les urnes sont ouvertes pendant 3 jours et les Égyptiens ont intérêt à aller voter. Nous irons au Caire. En tennis, les Françaises font jeu égal avec les Roumaines pour l'instant, en demi-finale de la Fed Cup. Rafael Nadal s'est fait sortir du Masters 1000 de Monte-Carlo. Peut-être pas de bon augure pour l'Espagnol avant Roland-Garros. En football, Marseille se relance à Guingamp. Victoire 3-1 cet après-midi au Roudourou. Dans ce journal aussi, le loup a été aperçu près de Pontarlier. La cité de l'espace de Toulouse nous ramène sur la Lune. Et Ma vie connectée avec Christine Siméon, un roman sur l'amour au temps des réseaux sociaux.
France Inter.
Après quelques samedis relativement calmes, cette 23e mobilisation des Gilets jaunes a été marquée dans la capitale par un regain de mobilisation et de nouveaux affrontements avec la police. Selon le ministère de l'Intérieur, il y avait près de 28 000 manifestants dans toute la France, dont 9 000 à Paris. C'est donc plus que la semaine dernière à Paris, mais un peu moins sur l'ensemble de la France. À Paris, les heurts se sont concentrés sur le trajet entre Bastille et République, quelques magasins pillés, beaucoup de gaz lacrymogène. Mais une situation qui est restée globalement sous contrôle. Des contrôles préventifs, il y en a d'ailleurs eu beaucoup depuis ce matin. Plus de 20 000 sur Paris et 227 interpellations. Bonsoir Yann Gallic.
Bonsoir.
La situation est en voie d'apaisement, place de la République où vous vous trouvez ?
En effet, les forces de l'ordre continuent d'évacuer la place de la République où sont encore rassemblées quelques centaines de gilets jaunes. Gendarmes et CRS sont mis en place, des barrages filtrants et fouillent tous les manifestants qui veulent quitter les lieux. Les forces de l'ordre ont lancé un peu plus tôt des gaz lacrymogènes et utilisé des canons à eau pour disperser les gilets jaunes avec parfois des interpellations très musclées. Nelly est retraitée, elle dénonce un dispositif policier démesuré.
On a demandé des choses au gouvernement et en retour on n'a que de la dureté, on n'a que des forces de l'ordre qui nous gazent alors que finalement on est tous pacifiques et on n'a aucune réponse à nos questions. Là on nous a parlé de la cathédrale, moi je trouve grave qu'on attache plus d'importance à des pierres que ce que je trouve magnifique plutôt qu'à des êtres humains.
Chez les Gilets jaunes qui ont défilé aujourd'hui dans les rues de Paris, les revendications restent les mêmes depuis 5 mois. Cyril est venu de Strasbourg et aujourd'hui, dit-il, l'urgence est avant tout sociale et écologique.
On sait que la Terre va se réchauffer de 5 degrés dans 100 ans, donc on devrait parler de ça et de l'urgence sociale parce que les deux vont ensemble. On devrait agir immédiatement et pour l'instant, Macron fait rien du tout. On est gouverné par des irresponsables, des gens qui vont droit dans le mur et puis qui sont très contents d'y aller. Malgré tous les efforts de la police pour couper le cortège en plein de morceaux, gazer des gens qui font rien de mal, y a quand même plein de gens qui viennent chaque samedi parce qu'il y a toujours la misère en France, il n'y a pas de raison que les gens arrêtent d'être révoltés.
Arrivés sur la place de la République, les manifestants ont brisé quelques vitrines de magasins. Le long du parcours, ils ont également mis le feu à des scooters et des poubelles. Mais finalement, cette journée de mobilisation s'est déroulée sans gros dégâts.
Merci Yann Gallic, vous étiez en direct de la place de la République avec Yves Lehorse à la technique. À noter que le métro a rouvert à République. Il faut que les violences cessent, dit ce soir Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire de Paris. Les habitants en ont assez, dit-il, et il n'est pas acceptable que des gens crient « suicidez-vous » à la police. Le premier adjoint critique aussi les dispositions de la préfecture de police qui avait autorisé 2 parcours dans l'est de la capitale. Si l'idée c'est de protéger les Champs-Élysées pour qu'il y ait des dégâts ailleurs, ça ne va pas. Fin de citation. Les Gilets jaunes étaient environ 1500 à Bordeaux, quelques centaines à Lyon ou à Nantes, où le centre-ville était pour la première fois interdit de manifestation, et près de 4000 à Toulouse. Bonsoir Stéphane Garcia.
Bonsoir Sarah, bonsoir à toutes et à tous.
Les Gilets jaunes toulousains ont manifesté dans le calme d'abord, puis la dispersion du cortège a donné lieu à quelques affrontements.
Oui, c'est exactement ça. Les manifestants qui sont d'ailleurs en train d'être éparpillés à coups de grenades lacrymogènes et grâce aux canons à eau par les gendarmes et les policiers, dont une dizaine de fourgons encerclent le métro Jean Jaurès, le plus important de la ville rose, celui par lequel eh bien tout le monde quitte le centre-ville et décèle une ambiance tendue donc à présent qui dénote beaucoup avec ce à quoi on avait assisté en début d'après-midi, le cortège de plusieurs milliers de manifestants qui a à plusieurs reprises fait une boucle dans le calme, dans le centre-ville de Toulouse, en passant notamment par l'arrière du Capitole, dont la place était interdite aux manifestants pour la cinquième samedi de suite. Comme toujours à Toulouse depuis 23 semaines, c'est aux alentours de 16h30 que les forces de l'ordre ont dispersé la foule en divisant le cortège à plusieurs reprises au niveau des intersections des grands boulevards. Une tactique employée qui frustre certains manifestants, même aujourd'hui alors qu'on marchait sous le soleil, que l'ambiance était bon enfant, même aujourd'hui, on se fait expulser par la police et les gendarmes. Cette violence, ce n'est pas quelque chose qui est de nature à calmer le mouvement, m'avouait il y a quelques minutes Annie, 67 ans, et gilet jaune depuis la première heure.
Merci Stéphane Garcia en direct de Toulouse. L'assistance publique Hôpitaux de Paris publie aujourd'hui une mise au point sur un prétendu fichage des blessés gilets jaunes. Le Canard Enchaîné a affirmé cette semaine que les hôpitaux avaient recensé les manifestants blessés. Selon la PHP, ce recensement qui est prévu en cas d'accident, incendie ou attentat avec un grand nombre de victimes ne vise qu'à organiser la prise en charge des flux de blessés et à coordonner les services de secours. Le ministre de la Culture demande une actualisation des audits de sécurité incendie dans les cathédrales. Dans une interview au Figaro ce matin, Franck Riester exclut cependant un lien entre un supposé sous-investissement de l'État et le déclenchement de l'incendie de Notre-Dame. Ce soir, Radio France s'associe au concert organisé et retransmis sur France 2 pour appeler à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. On pensait que ça allait être difficile de récolter de l'argent, reconnaît l'animateur Stéphane Bern. En fait, les dons affluent du monde entier. Et pour consolider cet élan, les artistes de l'Orchestre National de France, les chœurs et la maîtrise de Radio France viennent se produire bénévolement dans la cour des Invalides avec de nombreuses stars de la musique classique et de la chanson, de la danse aussi. Marie-Claude Pietragala n'a pas hésité.
Pour moi et Julien Deroux, on a tout de suite répondu présent. Oui, c'est naturel en sens où Notre-Dame est notre mémoire, notre patrimoine, c'est le symbole du cœur de Paris et de la France et au-delà, évidemment que c'est important. C'est fou, moi, quand j'ai vu ces images, j'avais du mal à les regarder. Quand on sait que cette cathédrale a été édifiée sur deux siècles et en l'espace de quelques heures, le toit s'embrase et ça nous laisse meurtris, touchés, évidemment. C'est pas uniquement un sanctuaire religieux, c'est vraiment un monument, un phare pour nous tous.
La danseuse étoile Marie-Claude Pietragala chez nos confrères de France Info. Et le concert en hommage à Notre-Dame de Paris commence à 21h.
Le journal de 19h sur France Inter.
Que pensent vraiment les 22 millions d'Égyptiens appelés aux urnes depuis ce matin pour la révision constitutionnelle qui doit permettre au président Sissi de rester au pouvoir jusqu'en 2024, voire même jusqu'en 2030? Bien difficile à dire car depuis 2014, Abdel Fattah al-Sissi a instauré un pouvoir de plus en plus autoritaire et les électeurs sont très fortement incités à se rendre dans les bureaux de vote. Le reportage au Caire de Martin Roux.
Dans cette école du centre du Caire, Mohamed Sami vient de tremper son index dans l'encre violette pour attester de sa participation. Comme lui, tous les électeurs rencontrés dans les bureaux de vote sont en faveur de la réforme constitutionnelle.
Avant, le pays était instable, donc c'est bien mieux pour nous de garder un homme qui connaît déjà la situation du pays plutôt que quelqu'un de nouveau qui va tout reprendre depuis le début.
Au cours d'une campagne uniquement en faveur du oui, les autorités ont réduit ce scrutin à un vote d'approbation de la politique du président al-Sissi. Dans le quartier populaire de Saïda Zeynab, Mohamed Ramadan sort de l'isoloir, il avoue ne pas connaître les amendements soumis au vote.
Mais nous devons continuer, et c'est pour ça que je vote pour le président.
À l'extérieur, des enceintes crachent des chants patriotiques, il faut s'écarter pour rencontrer les opposants. Sur un marché, un commerçant refuse de participer. Selon lui, le vote est joué d'avance.
Tous ceux qui se rendent dans les bureaux de vote, on leur donne une boîte d'huile et une boîte de sucre. Et les citoyens sont pauvres, donc je peux te dire dès maintenant que le résultat sera 99,9% de oui.
Seul inconnu de ce scrutin, le taux de participation, les autorités ont donc menacé les abstentionnistes d'une lourde amende. Le Caire, Martin Roux, France Inter.
En Syrie, un mois après la chute du dernier bout de territoire du groupe État islamique à Baghouz, des djihadistes ont encore mené une série d'attaques contre des forces fidèles au régime de Bachar el-Assad. 50 combattants ont été tués. Le Kosovo annonce de son côté le rapatriement de 110 de ses ressortissants, surtout des femmes et des enfants, mais aussi 4 hommes qui auraient combattu avec l'organisation terroriste. Les États-Unis ont félicité le Kosovo pour ce rapatriement qui constitue pour Washington un exemple important et assuré. En Libye, les forces du maréchal Haftar sont reparties à l'offensive dans les quartiers sud de Tripoli. On entend depuis le centre de la capitale le bruit des pilonnages à une dizaine de kilomètres. Ce regain des combats survient alors que les États-Unis ont semblé prendre parti pour le maréchal Haftar. Hier, le président Donald Trump l'a appelé au téléphone et la Maison-Blanche estime qu'il joue un rôle éminent dans la lutte contre le terrorisme. Tennis, en demi-finale de Fed Cup, Caroline Garcia a égalisé pour les Bleus face à la Roumaine Mihaela Burzanescu. En début d'après-midi, la Française Kristina Mladenovic avait été laminée par la numéro 2 mondiale Simona Halep. Demain, les numéros 1 s'affrontent. Caroline Garcia, pour la France, 21e joueuse mondiale, tentera l'exploit face à Simona Halep. Et qu'arrive-t-il à Rafael Nadal? Le numéro 2 mondial a été sorti en demi-finale du Masters 1000 de Monte-Carlo en 2-7, 6-4, 6-1 par l'Italien Fabio Fognini, 18e joueur mondial. Monte Carlo où Nadal est pourtant un peu chez lui, Fabrice Abgral.
Personne ne s'attendait à cette défaite de Rafael Nadal ici à Monte Carlo, là où précisément l'Espagnol a commencé à écrire sa légende sur terre battue en 2005. Rafael Nadal visait un 12e titre sur le rocher, mais Fabio Fognini l'en a empêché. Le numéro 2 mondial a cédé face à cet Italien né à San Remo il y a 31 ans, classé 18e mondial. Un joueur fantasque, imprévisible, parfois incontrôlable, mais tellement talentueux. Et il l'a montré aujourd'hui face à Rafael Nadal, plutôt nerveux, emprunté, sans sensation, gêné par un vent violent qui l'a empêché d'installer son tennis destructeur. Fabio Fognini ne s'est pas laissé impressionner par son adversaire. Il a joué sans complexe, relâché, libéré et sans pression. Nadal a été surpris par l'adresse, l'agressivité et la fougue de l'Italien, totalement maître de son tennis. Nadal n'était pas armé pour rivaliser, avouant même qu'il a disputé aujourd'hui son pire match sur terre battue. Fognini disputera demain sa première finale en Masters 1000, tout comme Dusan Lajovic, qui lui jouera tout simplement à 28 ans, la première finale de sa carrière débutée en 2007. Le Serbe est 48e mondial, il est le joueur le plus mal classé à se hisser en finale à Monte Carlo depuis 2001. Monte Carlo, Fabrice Abgral, France Inter.
Football avec la 33e journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille, sous pression pour une place en Coupe d'Europe l'année prochaine, est venu à bout des Bretons de Guingamp. Guingamp, qui jouait le maintien, s'est incliné à domicile. 3-1, Charles Guyard.
L'Olympique de Marseille va pouvoir passer un week-end plus tranquille en regardant la suite de la 33e journée de Ligue 1. Et cela s'est joué à quelques millimètres lorsqu'à la 63e minute de jeu, Marcus Thuram, l'attaquant guingampé, a vu sa frappe en pivot s'écraser sur la transversale de Steve Mandanda avant de rebondir sur la ligne de but, voire même les légèrement dans les cages marseillaises, mais pas suffisamment pour que la réalisation et donc l'égalisation ne soit validée par la fameuse goal line technology. En tremblant mais avec application, l'OM l'a donc emporté 3-1 en Bretagne grâce à des buts de Luis Gustavo, de Lucas Ocampos et de Valère Germain dans les arrêts de jeu. Entre temps, Ngakoto avait bien réduit la marque pour les costards mauricains, mais cela n'a pas suffi. L'en avant laisse Dijon prendre ses distances pour la place de barragiste et pourrait même rallumer la lanterne rouge si Caen l'emporte à Nice ce soir. Pour l'OM, l'affaire est tout autre. Lyon l'ayant emporté hier face à Angers, la victoire était impérative pour rester dans la course à la troisième place. Dans le sprint final, les joueurs de Rudy Garcia entretiennent toujours l'espoir de fondre sur l'OL, même si Saint-Etienne pourrait jouer les troubles faits demain sur la pelouse de Reims. Charles Guyard à Guingamp pour France Inter.
À 20h, les trois matchs de ce soir, Nîmes, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier et Nice, Caen. À pas de loup, dit-on, pour une arrivée qui ne fait pas de bruit. Pour le loup, justement, c'est tout l'inverse. Son retour en France est scruté par les éleveurs et les associations. En Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, l'année dernière, il avait été observé dans l'Yonne. Ce printemps, c'est dans le Haut-Doubs, près de Pontarlier, à Biance-les-Usiers, qu'un loup a été filmé et formellement identifié. On ne sait pas encore s'il est de passage ou s'il compte s'installer dans la région, mais il est diversement accueilli, Dimitri Imbert.
Parmi les promeneurs, tout d'abord, Armand part justement en balade dans les bois, mais pour lui, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Il y a déjà le lynx qui est pas mal implanté dans le coin, alors Il faut un équilibre de la nature quand même, il faut des prédateurs. Un, ça va, mais après, le problème c'est que ça se multiplie et puis le loup n'a pas de prédateurs.
À part l'homme ?
Oui, à part l'homme.
Denise, elle, n'est pas rassurée.
Oui, ça m'inquiète un peu. Je me balade, moi, dans les bois. Je prendrai un bâton, désormais.
C'est surtout du côté des éleveurs que les craintes sont les plus vives. Cédric Caté a près de 200 vaches.
Les troupeaux peuvent être stressés si le loup venait à se promener au travers et à essayer de les attaquer. Après, je pense que les gros bovins ne risquent encore pas pour le moment grand-chose, mais... C'est toujours une inquiétude quand même quand on sait qu'il revient par ici.
Inquiétude partagée par le maire de Goulet-Zuzier, Éric Bourgeois.
Ça ne me rassure pas. C'est dans l'imaginaire des gens. On a tous peur de se faire croquer par le loup. Si chacun reste bien chez soi, le loup chez lui, sans attaque de cheptel, tout ira bien.
En 2011 déjà, un loup avait été observé dans le secteur de Levier. Il avait tué 25 moutons et brebis chez un éleveur de Chapelle-Duin.
La Lune, comme si vous aussi vous marchiez dessus. Destination la Cité de l'Espace à Toulouse. Aujourd'hui s'est ouverte l'exposition Lune épisode 2, car d'ici 10 ans, l'homme ou la femme retournera sur la Lune pour se propulser vers Mars, Stéphanie Glézis. Et puis le 21 juillet prochain, on célébrera le 50e anniversaire de ces fameux mots.
C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Cette phrase de Neil Armstrong lors de ses premiers pas d'homme sur la Lune est devenue célèbre. Et justement, la Cité de l'Espace célèbre 50 ans après cette épopée. Le module lunaire, le LEM, l'atterrisseur, sera installé grandeur réelle dans les jardins de la Cité de l'Espace en juillet prochain. Et déjà, les visiteurs peuvent admirer une reproduction fidèle du poste de pilotage du LEM. Serge Gracieux, responsable du patrimoine de la Cité de l'Espace.
Pour que le visiteur puisse essayer de comprendre un petit peu quel exploit ça a été de poser un engin de 15 tonnes sur la Lune à 400 000 km de là. Chaque LEM voulait se poser en automatique, mais sans les hommes, il se serait crashé. Et quand on pose la question à Neil Armstrong, sur une échelle de difficulté de 1 à 10, la marche lunaire c'était 1 et la descente c'était 13.
Le retour de l'homme sur la Lune, c'est une façon de préparer l'exploration martienne. Jean-Jacques Favier, ancien astronaute.
Mars, c'est le Graal pour les astronautes. Les autres planètes après sont des planètes gazeuses et de l'autre côté sont des planètes qui sont trop chaudes, Vénus et Mercure, et il est hors de question d'aller dans cette direction-là.
Dans cette exposition, vous allez marcher sur la Lune, enfin sur une moquette qui reproduit le sol lunaire, vous déplacer comme un astronaute et même sentir la Lune. Ça ne donne pas franchement envie d'y aller, sinon pour vous promener en rover pressurisé au clair de Lune, ce que vous pourrez faire dans cette exposition. Toulouse, Stéphanie Glézis, France Inter.
Quand on cherche l'âme sœur sur les réseaux sociaux, la quête amoureuse 2.0 a inspiré à Stéphanie Dupays son roman intitulé « Comme elle l'imagine » qui paraît au Mercure de France. C'est votre vie connectée cette semaine. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir.
L'histoire, Laure est une jeune femme cultivée et pleine d'esprit. Sur Facebook, elle rencontre Vincent, un jeune homme qui partage son goût de la littérature et du cinéma.
On dit rencontrer quelqu'un sur un réseau social, mais de quoi parle-t-on exactement? Laure passe par tous les contours possibles des états amoureux. Pourtant, elle ne connaît Vincent que par ses échanges en ligne. Laure imagine, elle like, envoie des messages privés et le jeu d'aller-retour la comble. Enfin, presque. Pour Stéphanie Dupays, cette tension est à la fois romanesque et perturbante.
Je pense qu'il y a un type humain de Facebook, cet être fantomatique, cet être qui refuse de s'engager, qui préfère la relation de loin. Je pense que ça va de pair avec une peur contemporaine, une peur de l'autre, peur du lien, une peur de l'engagement.
Et au temps des réseaux sociaux, Christine, l'amour va vite, l'amour voit flou et l'amour peut faire mal aussi.
L'amour voit flou parce qu'on projette sur le profil de l'autre, c'est bien comme ça qu'on dit sur les réseaux sociaux, hein, le profil. On projette donc sur le profil de l'autre uniquement ce que l'on veut y voir. L'amour va vite parce qu'on s'enthousiasme vite sur la foi de quelques indices et qu'on peut se faire zapper d'un simple clic et éjecter très rapidement d'une relation. Et donc, l'amour peut faire mal aussi.
Je pense que ce qu'il y a de particulièrement pervers avec Facebook et avec l'ensemble des réseaux sociaux, c'est que ça entretient finalement un sentiment de solitude. Parce que le dialogue que vous pensez avoir sur les réseaux sociaux, cette présence à distance, finalement, elle n'apaise pas. C'est pas comme le fait de discuter vraiment avec quelqu'un, d'échanger des regards, de partager réellement des choses ensemble. Vous avez l'impression d'un partage, l'impression d'une communion, mais ça reste toujours loin. L'autre peut quitter la conversation immédiatement, alors que, d'un seul coup de tête, finalement, avec seulement un clic, alors que dans la réalité, personne ne fait ça. ça.
Les deux personnages de ce roman, fort délicat, on peut avoir étudié Proust, Flaubert, Barthes ou je ne sais qui, ils sont démunis et malvoyants sur leur propre situation. La littérature ne vient pas vraiment à leur secours. N'espérez donc pas de ce roman qu'il vous aide à éviter les pièges d'une vie absorbée par les écrans. Goûtez-le plutôt pour sa seule et bien réelle beauté.
Christine Siméon et l'intégrale de l'entretien avec Véronique Dupéy est à lire sur franceinter.fr.